Alors, Éphésiens chapitre 2. Alors, je vais commencer verset 11. Et j'aimerais traiter le paragraphe du verset 11 au verset 17. Alors, on nous parle de haine, on nous parle de paix. Alors, c'est quoi? C'est une haine entre qui et qui? Une paix entre qui et qui? Question qu'on peut se poser. Dans ce paragraphe-là, on va parler des ethnies en chair. On va parler de, entre guillemets, vous. Et on va parler aussi de, donc vous, par exemple, au verset 11, on va aussi parler de nous ou notre, par exemple, au verset 14. Alors, on a d'un côté les ethnies en chair, d'accord, verset 11, et de l'autre, on a les proches, par exemple, au verset 17. On a ceux qui sont longuement, d'accord, et les proches. On a ceux qui sont comptés comme prépuces et ceux qui sont comptés comme circoncision en chair. Ok, donc grosso modo, on a ceux qui sont d'Israël et ceux qui ne sont pas d'Israël. Ceux qui sont d'Israël, c'est ceux qui sont comptés comme circoncision en chair, ce sont ceux qui sont appelés proches, et ceux qui ne sont pas d'Israël, bah, ils sont comptés comme prépuces, comme ethnie en chair ou comme étant longuement. C'est ce qu'on peut comprendre de ce paragraphe, n'est-ce pas? Alors maintenant, par rapport à la haine et la paix, qu'en est-il? Eh bien, on peut voir au verset 16 qu'on parle de réconciliation. C'est le mot qu'il nous fallait pour passer de la haine à la paix, n'est-ce pas? Alors, de quelle réconciliation s'agit-il? Il s'agit de la réconciliation entre les deux. Entre les deux quoi? Bah, selon le paragraphe, on parle de deux choses dans le paragraphe. On parle de ceux d'Israël et ceux qui ne sont pas d'Israël. Les nations et Israël. On parle de ces deux choses-là dans ce paragraphe, n'est-ce pas? Donc, récemment, il s'agirait d'une réconciliation entre Israël et ceux qui ne sont pas Israël. Il dit quoi? Il dit « Et qu'il ait réconcilié complètement les tous deux en un corps à le Dieu par la croix. » Donc, c'est-à-dire que il y aurait une réconciliation entre Israël et ceux qui ne sont pas Israël grâce à Jésus-Christ. Ok? Donc, vraisemblablement, quand on parle dans ce paragraphe de haine et de paix, c'est entre Israël et ceux qui ne sont pas Israël, entre Israël et les nations. Et au verset 16, il va préciser comment cette réconciliation est arrivée grâce à Jésus-Christ. Mais ayant tué la haine en lui. Donc, du fait qu'il n'y ait plus eu de haine grâce à Jésus-Christ, il y a pu avoir réconciliation. Donc, ça sous-entend qu'il y avait une haine, il y a pu avoir une haine entre Israël et ceux qui ne sont pas Israël. Et cette haine-là, est-ce qu'on la voit encore aujourd'hui? Oui, on peut la voir encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le nazisme, par exemple. D'accord? Donc, vraisemblablement, à l'époque de Paul, ça a existé déjà. Récemment, c'est de ça dont on parle dans ce paragraphe. Et quelle est la conclusion de cette réconciliation? C'est ce qu'on a au verset 14. Ayant fait ces tous deux un. C'est-à-dire que les Juifs, ceux qui sont d'Israël et ceux qui ne sont pas d'Israël, il en a fait un. À la base, ils sont deux, mais il en a fait un. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, c'est la même chose. C'est un. C'est une chose. C'est une. Et même chose, ils sont plus deux, si je puis dire, mais ils sont un maintenant. Et c'est ce que va dire Paul finalement au verset 19, n'est-ce pas? Par conséquent, donc vous, c'est-à-dire ce vous-là dont on parle au verset 11, vous à un moment les ethnies en chair, vous n'êtes plus étrangers et maisonnants de côté, mais vous êtes co-citoyens des saints et membres de maisonnée de le Dieu. Donc vous n'êtes plus étrangers, c'est-à-dire des nations dans le sens de puis c'est ce qu'on voit au verset 11 hein. À un moment vous étiez des nations, à un moment vous étiez des nations, et donc là verset 19 il nous dit bien vous n'êtes plus étrangers, c'est-à-dire vous n'êtes plus une nation, vous êtes co-citoyens, vous êtes membre, voilà, membre de la maison de Dieu. Il y a plus deux peuples, si je puis dire, il y en a un, verset 14. ayant fait ces tous deux un. Maintenant, ceux qui sont les nations, c'est pas toutes les nations, si je puis dire, c'est les nations qui ont cru en Jésus. C'est pas les nations qui rejettent Jésus. Voilà, ceux qui ont cru en Jésus. Parce qu'il dit bien, c'est par Jésus que ça arrive. C'est par la croix, par exemple, au verset 16. Au verset 13, vous êtes devenus dans le sang de le Christ. Voilà, c'est dans le sang de le Christ que vous arrivez à devenir, citoyen d'Israël. Et verset 14, il dit bien que c'est Jésus, notre paix, c'est-à-dire ce qui fait l'union, ce qui fait la réconciliation entre Israël et ceux qui ne sont pas Israël. C'est Jésus. Donc si la nation rejette Jésus, elle rejette aussi la réconciliation. Alors il dit, car lui, verset 14, est notre paix. Verset 13 aussi, en envoyant Jésus, vous êtes devenus proches dans le sang de le Christ. Donc c'est vraiment lié, c'est par Christ que ceux qui sont des nations deviennent proches, deviennent co-citoyens, ne sont plus étrangers à Israël. Donc, ce n'est pas les nations qui rejettent Jésus, ce sont celles qui sont devenues par Jésus, proches. Maintenant, il dit, afin que les deux, qu'il ait créé en lui-même, envers un nouveau être humain, faisant une paix, et qu'il ait réconcilié complètement les tous deux en un corps à le Dieu par la croix. Il dit qu'il ait créé en lui-même envers un nouveau être humain. Les deux. Et les deux, il en fait un. Un quoi ? Un peuple, un quoi ? Il dit quoi ? Il dit un nouveau être humain. Donc les deux, ils sont devenus un, ils sont devenus un quoi ? Un nouveau être humain. Un nouveau être humain. Ça, je crois que c'est une image ou une manière d'appeler le peuple. Comme il est dit, le peuple se leva comme un homme. Tous ensemble comme un homme. Ou alors, nous sommes le corps de Christ. D'accord ? Ça, c'est une manière de dire, de parler de nous, en fait. C'est une manière de parler de l'Assemblée, de parler du peuple de Dieu, si je puis dire, de parler de l'ensemble des croyants. On associe cet ensemble de croyants à un corps d'hommes. Enfin, d'hommes, oui, si je puis dire. Car il est fils de l'homme, n'est-ce pas ? Un humain, n'est-ce pas ? Donc, quand il dit « afin qu'il ait créé en lui-même envers un nouvel être humain », c'est-à-dire « afin qu'il ait créé en lui-même envers un nouveau peuple ». Pourquoi un nouveau peuple ? Parce qu'avant, il n'y avait que... Enfin, avant qu'il y ait le sacrifice de Christ, Israël était réduit juste au judaïsme. Alors qu'avant, il y avait tout Israël. C'était un grand peuple avant. Mais avec le temps, il était réduit à juste un douzième à peu près, n'est-ce pas ? D'une certaine manière. Et donc là, ce qui a été fait par la croix, c'est que ce un douzième, il est censé redevenir un. D'accord ? Un. Une unité, un total. En intégrant ceux qui autrefois étaient étrangers, enfin loin, et qui maintenant sont proches. Donc, le peuple, il est nouveau, il y a un renouvellement, si je puis dire, en ce que il y a toute une masse qui est venue s'intégrer au judaïsme pour faire de cette masse résultante le peuple de Dieu. C'est-à-dire, grosso modo, le peuple de Dieu s'est accru, il est devenu plus nombreux, le nombre de personnes dans le peuple de Dieu est devenu plus nombreux, plus grand. Et c'est ce qu'il dit après, il dit... Et on voit que nouveau être humain, c'est synonyme de corps. Ce qu'il dit après, qu'il est réconcilié complètement les tous deux en un corps, à le Dieu. Comment ? Par la croix. Il dit par la croix, pas par notre piété personnelle, pas par nos œuvres, mais par la croix, par l'œuvre de Christ. Par le fait que Christ était crucifié, qu'il a bien voulu se laisser crucifier, par sa grâce, parce que c'est un cadeau qu'il nous a offert que de se laisser mourir pour nous sur la croix, alors que c'était nous qui étions censés mourir pour nos fautes. Lui, elle a pris la place elle a pris le sort à notre place, enfin le sort, le châtiment à notre place. Donc c'est par cette substitution que on va pouvoir intégrer la citoyenneté d'Israël, qu'on va pouvoir intégrer Israël. Et le fait qu'un juif donne sa vie pour des non-juifs, forcément, les non-juifs, enfin, pas, je dis pas tous, hein, mais il y aura plein de, n'est-ce pas, de non-juifs qui seront sensibles à ça. Et qui forcément, s'ils avaient de la haine avant pour le peuple juif, cette haine-là, elle va devenir inexistante. Comment tu peux haïr quelqu'un qui t'aime au point de mourir pour toi ? Tu ne peux plus l'haïr, n'est-ce pas ? Comme il est dit, car lui est notre paix. Verset 14. Et quand on regarde, c'est bien par rapport à sa mort. Par sa mort, il dit, vous fûtes devenus dans le sang de le Christ. Il est dit, afin qu'il réconcilie complètement les tous deux en un corps à le Dieu par la croix. Donc c'est par le sang et la croix que la haine entre Israël et les nations n'est plus. Enfin, les nations qui, du coup, sont devenues chrétiennes, n'est plus. Et pareillement, et à la place, il y a eu la paix. C'est grâce au sacrifice de Jésus. Maintenant, je vais m'intéresser un peu plus au verset 14, quand il dit « Car lui, notre paix, celui ayant fait ses tous deux un, et le mur mitoyen de la clôture ayant délié, la haine dans sa chair, la loi des commandements en dogme ayant rendu totalement son travail, afin que les deux qu'il écrit en lui-même envers un nouveau être humain faisant une paix. » Alors, il dit donc, car lui, notre paix, ça on l'a vu, celui ayant fait ses tous deux un, ok, et le mur mitoyen de la clôture ayant délié, la haine dans sa chair. Donc, bon, récemment, il appelle la haine qu'il a déliée, qu'il a abolie, qu'il a ôté, un mur mitoyen de la clôture. Voilà. C'est une manière dont on peut voir, d'accord, ce verset. Donc on peut comprendre ce verset. Ensuite, il dit, la loi des commandements en dogme ayant rendu totalement son travail. Alors là, on peut se demander ce que ça veut dire. Alors, il dit, quelque chose d'intéressant, il dit, la loi des commandements en dogme. C'est-à-dire en avis, en opinion. C'est-à-dire, pas des choses... c'est pas là, vraiment. On ne parle pas de la Torah, parce qu'on dit en dogme, on ne dit pas la loi. Il ne dit pas la loi ayant rendu totalement son travail. Il précise, il dit la loi de quoi ? Des commandements. Quel genre de commandements ? Ceux en dogme, ceux qui sont des avis, ceux qui sont des opinions, d'accord ? Des traditions d'hommes, si je puis dire, des commandements d'hommes, ok ? Alors, pourquoi est-ce qu'il parle de ces commandements-là ? Parce qu'ils sont, ils concernent les juifs, n'est-ce pas ? Par exemple avec des choses dans Talmud, n'est-ce pas ? Et aussi les non-juifs qui vont se mettre des commandements, d'accord ? Pour mieux vivre ou pour se dire, je vais faire des bonnes choses comme ça, j'espère que j'irai au ciel après la mort. Mais c'est leur propre commandement, c'est leur propre pensée, c'est leur propre œuvre, d'accord ? Ils se disent, je vais faire ça et tout, c'est mon commandement, il faut que je fasse le bien, il faut que j'aille à l'église. Voilà. Mais en fait, c'est des avis, c'est des opinions d'hommes. Ce n'est pas la vérité. Si tu veux aller au ciel, tu n'as pas à obéir à des commandements du style va à l'église ou des trucs comme ça, ou sois une bonne personne. Ça. Non. Donc, une manière d'interpréter ce verset 15, c'est de dire que ce qui a été rendu totalement sans travail, c'est justement tous ces commandements humains. Et en quoi est-ce qu'ils ont été rendus sans travail ? Ils ont été rendus sans travail par rapport à la vie après la mort, par rapport au fait d'aller au ciel après la mort, par rapport, je dirais, au fait d'appartenir à Christ. Si tu as l'esprit de Christ, tu appartiens à Christ. Pour avoir l'esprit de Christ, il faut s'être fié en Jésus-Christ, c'est-à-dire n'en avoir rien à faire des commandements, des commandements pour avoir... le salut, si je puis dire. Comprendre que c'est par la foi seule. Donc, comment est-ce qu'on appartient à Christ ? C'est justement en mettant de côté tous les travaux, toutes les œuvres. Et juste en mettant notre foi en Christ. Donc, en ça, la loi des commandements d'homme a été rendue sans travail. Donc ça, c'est la première interprétation, et je pense que c'est la principale, parce que là, on parle dans le contexte du peuple de Dieu, de ceux qui font partie du peuple de Dieu, et on ne fait pas partie du peuple de Dieu sur la base de est-ce que je suis suffisamment un bon citoyen ou pas? Non, c'est pas parce que tu gardes pas, par exemple, la cache-route que ça t'exclut, n'est-ce pas? Enfin bon, quoique, c'est vrai que dans la Torah, à mon souvenir, il y a des passages qui disent il sera retranché de son peuple s'il fait de mauvaises choses, etc. Mais ça, je dirais que c'est pour le temps présent. Parce que quand il y aura la résurrection, en vérité, eh bien, ils seront tous ensemble à nouveau réunis. Donc par rapport à ce peuple-là éternel, parce que là on parle d'avoir la vie éternelle, enfin, dans le sens que celui qui appartient à Christ, ben, il a la vie éternelle, hein. Donc par rapport à ce peuple éternel-là, la loi des commandements dogmes est sans travail, d'accord? Dans le sens que c'est pas ça, c'est pas la loi qui va t'exclure de ce qui pourra te virer, si je puis dire, du peuple, enlever ta citoyenneté. En revanche, c'est vrai que sur Terre, si tu fais n'importe quoi, si tu gardes pas la Torah, il me semble qu'effectivement, tu peux être retranché du peuple, mais sur Terre, quoi. Mais là, ce sera de ta faute et pas de la faute de juste « Oh, t'es pas né juif ». Donc tu ne pourras pas haïr, entre guillemets, tu ne pourras pas t'en prendre, entre guillemets, à Dieu ou au peuple juif parce que tu ne serais pas né juif, mais tu pourras t'en prendre à toi-même parce que tu as fait n'importe quoi. Donc même si il s'avérait que tu ne fasses plus partie, enfin, oui, que tu sois retranché du peuple à cause de ta faute, bah, la haine ne pourrait pas vraiment renaître du fait que, entre guillemets, tu as eu ta chance. Donc si il y avait une nouvelle haine, ce ne serait pas une haine semblable à celle qu'il y a eu avant, et ce serait une haine un peu hypocrite aussi. Enfin, ce serait une haine, je pense, pas très intense. Du fait que la personne, en fait, en réalité, le problème, ça a été que elle a juste fait n'importe quoi, en fait. N'est-ce pas? Donc ça, c'est la première interprétation pour la loi des commandements dogmes, ayant rendu totalement son travail. Et la deuxième interprétation, c'est de dire que enfin, c'est d'avoir un point de vue un peu karaïte, c'est-à-dire que le Seigneur nous a fait comprendre qu'il fallait faire attention aux traditions des hommes et qu'il fallait pas mettre les traditions des hommes, fallait pas les prendre comme des commandements d'hommes dans le sens de les mettre au-dessus des commandements de Dieu. Et donc ça permet de remettre à sa place la tradition des hommes et de pas s'y attacher comme si elles étaient divines, n'est-ce pas? Dans le sens de, on va pas les mettre au même niveau. Il y a un niveau qui est au-dessus de l'autre, c'est le niveau divin. Mais le truc, c'est que ces lois humaines, elles ont été sur les juifs, n'est-ce pas, et sur les non-juifs. Donc en cela, ça concerne les deux. Et donc, les non-juifs vont pouvoir se dire, oh, en fait, j'ai plus besoin de faire ceci, de faire cela, maintenant j'ai la Torah, donc c'est trop bien, etc. Donc ils sont super contents, donc c'est top. Donc ces dogmes, ils sont rendus complètement sans travail, parce que maintenant ils ont la Torah. Donc ils ont été complètement anéantis, ces dogmes, du côté des nations. Et du côté des juifs, ben, quand ils ont vu Jésus, comment il remettait à sa place les commandements d'hommes, eh bien, les juifs ont pu se dire, waouh, mais en fait, ça, c'est pas aussi important que ce qu'on pensait. Et du coup, ils ont pu, comme ça, remettre la Torah vraiment à sa place. Mais cette dernière interprétation, je trouve que du côté des juifs, elle est moins forte, dans le sens que remettre à sa place le dogme, c'est pas forcément le rendre totalement sans travail. Dans le sens que on peut, à un moment donné, choisir de suivre le dogme pour telle ou telle raison, sans considérer que ce dogme soit équivalent à un commandement de Dieu, et finalement suivre le dogme comme ça, bah, je trouve que c'est pas l'avoir rendu totalement sans travail. Et à mon souvenir, Nulle part dans nos testaments, on nous dit clairement que la tradition des hommes, il ne faut pas la suivre du tout. Que c'est quelque chose dont il faut vraiment se débarrasser. À mon souvenir, dans le Nouveau Testament, on n'a pas ça. Par exemple, dans Actes des Apôtres, on parle d'un chemin de Shabbat. Ça, on ne l'a pas dans la Torah. Pourtant, c'est dans la bouche de Luc, n'est-ce pas? Donc, il n'a pas. Récemment, il ne s'en est pas débarrassé comme ça d'un revers de main. Donc, vu que. On n'a pas cette mentalité à ma connaissance, je balaye comme ça d'un revers de main la tradition des hommes qui se prend pour commande Dieu, n'est-ce pas? C'est plus difficile de dire que le Seigneur a rendu totalement son travail ces dogmes-là. Par rapport, du coup, à la vie de tous les jours. Et donc, c'est pour ça que je pense que la principale interprétation, et je dirais même, je pense peut-être la seule, c'est la loi des commandements en dogme ayant rendu totalement son travail par rapport au fait d'appartenir à Christ, à l'Israël de Dieu. C'est-à-dire par rapport au fait d'avoir pris le Saint-Esprit, c'est-à-dire d'être sauvé. C'était rendu totalement son travail. Voilà. La loi des commandements en dogme. Et il dit... Pourquoi est-ce qu'il dit la loi des commandements en dogme et pas juste la loi ? Parce qu'en disant la loi des commandements en dogme, il va pouvoir cibler à la fois les juifs et à la fois les non-juifs. Donc, les deux peuples dont on parle dans ce paragraphe. Donc, en conclusion, cette expression de la loi des commandements en dogme ayant rendu totalement son travail, c'est encore une fois... l'idée que les œuvres ne nous sauvent pas. Voilà. Ce n'est pas par les œuvres qu'on appartient à Christ. C'est par la foi en lui. Donc, c'est l'évangile. Voilà, verset 15. À ma compréhension, on parle de l'évangile. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par la loi des commandements. C'est juste par la foi en lui. Grâce à son sacrifice, grâce à la croix, grâce au sang de le Christ. Et cet évangile, il en parle... dans le paragraphe précédent, quand il dit « À une grâce vous êtes ayant été sauvés ». Quand il dit « Car à la grâce vous êtes ayant été sauvés par la croyance ». Aussi, ceci n'est pas parti de vous, c'est don d'un Dieu, non parti de travaux, afin que ne s'est pas vanté un quelconque. C'est l'évangile pur et dur, n'est-ce pas? Donc, dans le contexte même du chapitre, on voit bien que l'évangile est très présent, si je suis dans, en tout cas, présent très clairement. Donc, grosso modo, ce paragraphe du verset 11 à 17 dit que voilà, grâce à l'évangile, eh bien, vous faites maintenant partie du peuple de Dieu. Grâce à ce salut, par la croix de Christ, par le sang de Christ, par votre foi en lui, vous n'êtes plus quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, mais vous faites maintenant partie du peuple de Dieu. Vous faites partie d'Israël, dans le sens de vous êtes citoyens d'Israël, n'est-ce pas? Donc voilà pour ce paragraphe. Et en quoi est-ce que la haine qu'il y avait entre les deux peuples était un mur de clôture? En ce que finalement, cette haine, elle empêchait les deux peuples d'être un. Donc c'est comme un peu un mur qui sépare deux groupes de personnes. Et donc détruire cette haine, c'est détruire ce mur, c'est amener l'union, la réconciliation, la paix. Et finalement, qu'est-ce qui pouvait illustrer au mieux aussi ce mur? C'était ce qui séparait visuellement, manifestement, les juifs des non-juifs. Et qu'est-ce que c'était ça? C'était la pratique de la Torah. Le fait qu'ils gardent Shabbat, le fait qu'ils mangent kasher, le fait qu'ils portent des tzitzit, par exemple, toutes ces choses-là. Donc le fait de dire que ce mur a été délié, ça ne veut pas dire que la Torah a été abolie, mais ça veut plutôt dire que les non-juifs ont adopté ces pratiques qui avant étaient réservées qu'à Israël. Ils les ont adoptées du fait que maintenant ils font partie d'Israël, ils sont citoyens d'Israël. Et donc il n'y a plus ces éléments séparateur. Maintenant, est-ce que Dans ce paragraphe du verset 11, verset 17, quand Paul parle d'Israël, est-ce qu'il parle de tout Israël selon la chair ? Alors, est-ce qu'il parle d'Israël qui a gardé, qui a cru en Jésus, qui a reconnu Jésus ? À ma compréhension, à ma connaissance, il s'agit d'Israël qui a reconnu Jésus, pas Israël qui n'a pas reconnu Jésus. Pourquoi ? Parce que il est dit que des deux, il en a fait un. Il est dit, il en a fait un, c'est-à-dire ils sont un. Mais si les nations qui ont reconnu Jésus, comment les nations qui ont reconnu Jésus, elles pourraient être un avec Israël qui ne reconnaît pas Jésus ? Il y aurait une différence entre les deux, n'est-ce pas ? Mais bon, cet argument, il pourrait être contestable par certains. Il y a autre chose, c'est de dire que les deux sont un corps. Les deux sont un corps, pas deux corps. Or, il s'avère que les non-croyants, enfin, pardon, ceux qui étaient des nations qui ont cru en Jésus, ils font partie de quel corps ? Ils font partie du corps de Christ. Donc, si ils sont le même corps que Israël, c'est-à-dire que Israël aussi fait partie du corps de Christ, sauf que pour faire partie du corps de Christ, il faut appartenir à Christ, n'est-ce pas ? Il faut faire partie de l'assemblée de Christ, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il faut avoir cru en Jésus, il faut avoir reconnu Jésus, il faut être sauvé, n'est-ce pas ? Donc, vraisemblablement, en ce que les deux sont un corps, à savoir quel corps ? Le corps de Christ, les deux ont reconnu Christ, n'est-ce pas ? Et il dit aussi avant, afin que, donc là, verset 15, là, on regardait le verset 16, enfin, on était sur le verset 16, là, verset 15, il dit, afin que les deux, il les crée en lui-même envers un nouveau être humain. Enfin, qu'il les crée en qui ? En lui-même, donc en Christ. Afin que les deux soient où ? En Christ. Mais pour que Israël soit en Christ, il faut qu'il ait reconnu Christ. Il faut qu'il ait cru en Christ. Envers quoi ? Un nouveau être humain, c'est-à-dire envers un nouveau peuple. C'est-à-dire, il y avait l'Israël qui ne croyait pas en Jésus, qui n'avait pas reconnu Jésus. Ça, c'était l'Israël avant que Jésus arrive, avant que Jésus soit sacrifié, n'est-ce pas ? Et après, il y a eu le nouvel Israël, avec les nations qui sont arrivées, qui ont cru en Jésus. Et ce nouvel Israël, vraisemblablement, selon ce qu'on a lu, il est censé croire en Jésus. Donc, à ma compréhension, à ma connaissance, on parle d'Israël qui reconnaît Jésus. Ceux qui ont cru en Jésus dans les nations sont un avec Israël qui a reconnu Jésus. Alors, juste, j'ai étendu le paragraphe donc, qui précédemment était du verset 11 au verset 17. J'ai étendu au verset 18. Voilà, j'ai rajouté, si je peux dire, ouais, le verset 18 au paragraphe. Donc, j'ai commenté le verset 17 et 18. Mais aussi ayant venu, il nous évangélisa une paix aux longuement et aux proches, en ce que par lui nous avons l'approche conduite les tous deux, elle en un souffle proche de le Père. Alors on peut voir que il dit ayant venu, il nous évangélisa une paix aux longuement et aux proches. Donc il s'agit déjà d'un événement passé. Il nous évangélisa. Ayant venu, il nous évangélisa. Donc avant la crucifixion, il nous avait donné cette bonne nouvelle, il nous l'avait annoncé. Et là, Paul, il dit, il nous évangélisa au longuement et aux proches, c'est-à-dire à nous qui sommes longuement et proches, enfin longuement ou proches, grosso modo. Donc là, Paul, il regroupe les longuements et les proches. Et en quoi ? En ce que Christ s'adressa aux deux, il s'adressa au longuement et aux proches, en leur disant, en leur évangélisant une paix. Et Paul s'identifie, lui et ceux avec lui, à ces gens-là, à ces groupes-là, les longuements et les proches, parce que tous les deux ont été évangélisés par Christ. Et donc, qu'en était-il plus précisément de cette évangélisation ? Eh bien, il dit, en ce que par lui, nous avons l'approche conduite, les tous deux. Donc, vraisemblablement, cette évangélisation, elle avait pour visée de dire aux longuement et aux proches que par lui, on obtient l'approche conduite. À savoir laquelle, plus précisément, celle en un souffle proche de le Père, dont parlent, n'est-ce pas, les prophètes. Quand il dit, par exemple, « Je mettrai en vous un esprit nouveau », n'est-ce pas ? Donc une proche conduite en un souffle, proche de le Père, c'est un synonyme. C'est synonyme finalement à dire, semblable à dire, marche par l'esprit, n'est-ce pas? Et quand Paul dit « il nous évangélisa », le « nous » en vérité, tout à l'heure j'ai dit qu'il s'agissait de Paul et de ceux avec lui, mais en vérité, quand on réfléchit, quand on regarde, on comprend que ce « nous », vraisemblablement, bah, il correspond aux chrétiens, en fait, à tous les chrétiens, et je dirais même à l'humanité, en fait, parce que l'humanité est composée des proches et des longuements. Et du coup, juste pour revenir sur ce paragraphe, dans le verset 11 au verset 18, finalement, on voit que le sacrifice de Christ, il est censé permettre la paix, normalement, entre Israël et les nations. Mais aujourd'hui, concrètement, on voit que, en tout cas, on a pu voir ça durant le 19e, durant le 20e siècle avec les nazis, on a pu voir que, vraisemblablement, dans les nations, il y a encore de la haine. Alors, comment ça se fait? Bah, en fait, c'est juste dû à une seule chose. C'est que ces gens-là, qui ont la haine, n'ont pas compris Christ, n'ont pas reçu, finalement, la compréhension, la révélation biblique, néo-testamentaire. C'est que ces gens-là donnent l'impression qu'ils ne sont pas chrétiens, en fait. Peut-être qu'ils ne le sont pas, mais en tout cas, à mon sens, vraisemblablement, le problème, j'ai envie de dire, c'est que, vraisemblablement, ils ne sont pas chrétiens. C'est ça, le problème. Avant qu'ils haïssent les Juifs. S'ils avaient été chrétiens, mais vrais chrétiens, si je puis dire, il n'y aurait plus cette haine. Donc, la solution à ce qu'il n'y ait plus de antisémitisme, c'est Jésus-Christ. Parce que son sacrifice, eh bien, il détruit cette haine antisémite. Et vice-versa, si les Juifs haïssent les nations, le sacrifice de Jésus-Christ, il détruit cette haine. Donc, s'il y a des Juifs qui haïssent ceux des nations, les gens des nations qui ne sont pas Juifs, eh bien, c'est aussi parce qu'ils ne sont pas chrétiens, vraisemblablement. Donc la solution pour qu'il n'y ait plus de haine vers les Juifs ou des Juifs vers les non-Juifs, c'est Jésus-Christ. Et l'explication à ce qu'il serait dans la haine, l'un des deux, les Juifs ou les non-Juifs, vis-à-vis de l'autre, c'est que vraisemblablement, ils ne sont pas chrétiens. Alors, je vais continuer avec les versets 19 à 22. Donc, on peut lire « Par conséquent, donc, vous n'êtes plus étrangers et maisonnants de côté, mais vous êtes co-citoyens des saints et membres de maisonnées de le Dieu, ayant été surédifiés en maison sur le fondement de les envoyés et prophètes, de ce qu'étant d'extrémité du coin, de lui-même, de Jésus loin, en lequel toute édification en maison étant jointe ensemble, croit envers un temple saint en maître, en lequel vous aussi vous êtes édifiés en maison ensemble, envers un lieu d'habitat établi de le Dieu en souffle. » Alors, il conclut un peu ce qu'il avait commencé à dire au verset 18, n'est-ce pas, quand il dit, non, c'est même pas 18, c'est un peu après. Bon, quand il commence à dire maintenant si, quand il commence sur ce qui est entre parenthèses, il conclut ça en disant, voilà, donc vous n'êtes plus étrangers. C'est-à-dire quoi si on n'est plus étrangers? C'est-à-dire qu'on fait partie du peuple. C'est-à-dire qu'on fait partie de la même, du même groupe que lui. On n'est plus étranger. Donc, on est israélite, vraisemblablement. Et ce qui est encore plus fort, c'est que dans la Torah, il est dit d'un côté israélite et de l'autre étranger. Il est même dit s'il y a des étrangers au milieu de vous. Mais là, Paul ne dit même pas qu'on est des étrangers au milieu des israélites. On est des israélites, vraisemblablement. Voilà. Donc, vous n'êtes plus étrangers et maisonnants de côté. Vous ne faites plus chambre à part. Vous n'êtes plus à maison d'à côté, si je puis dire. Vous êtes dans la même maison. dans la même maison. C'est une maison. Avant, il y avait la maison d'Israël et la maison de Juda. Maintenant, c'est une maison, si je puis dire. C'est juste la maison d'Israël. Après, il dit... Donc ça, c'est très fort, hein, je trouve. Après, il dit... Mais vous êtes co-citoyens des saints et membres de maisonnée de le Dieu. Donc ça, c'est... Il répète un peu ce qu'on vient de voir. Il le dit juste sous une forme un petit peu différente. Ayant été surédifié en maison sur le fondement de les envoyés et prophètes. Alors oui, effectivement, on pourrait dire, mais de quel droit est-ce que par Jésus, tu t'en arriverais à être israélite? Ce qu'on pourrait penser, c'est ce qu'on pourrait dire. Mais là, il dit, c'est sur la base de les envoyés, c'est-à-dire les apôtres, et des prophètes. Donc, c'est-à-dire, c'est pas moi qui me suis levé un matin, un jour, et je me suis dit, tiens, hop, maintenant je suis israélite. Non, c'est sur la base des prophètes et des envoyés. Donc, c'est... Je trouve que c'est énorme. Alors, comment ça, des prophètes? Où est-ce que dans les prophètes, il est dit qu'il y aurait des gens qui seraient... qui deviendraient israélites? Bah, c'est simple, dans Osée, n'est-ce pas, par exemple, et dans pas mal de prophéties, à ma connaissance, on voit qu'effectivement, Israël est comme restauré. Et donc, le fait qu'Israël tout entier soit restauré, là, bah, par exemple, dans Amos 9, hein, n'est-ce pas, Amos 9, 15 à 16, je crois, 14 à 16, où il est dit que le Seigneur rebâtira la maison, la tente de David, il la remettra droite, n'est-ce pas, il la réédifiera, n'est-ce pas. Donc, par exemple, dans Amos, on a aussi Osée, n'est-ce pas, qui vont dire qu'à un moment donné, eh bien, il va y avoir des, Israël sera restauré, grosso modo. Donc effectivement, dans les prophètes, il y a cette notion, cette réalité que l'on retrouve d'un Israël restauré, c'est-à-dire des 12 tribus finalement restaurées, n'est-ce pas? Et donc, il va continuer en disant de ce qu'étant d'extrémité du coin, donc vous avez, c'est-à-dire qu'on a été surédifié sur le fondement des prophètes et des envoyés. En quoi on a été édifié là-dessus? En ce qu'étant d'extrémité du coin. Sous-entendu de la pierre angulaire de lui-même, de Jésus ou un. Du fait d'être de Jésus, d'accord? Du fait d'appartenir à Jésus, eh bien, par là aussi, on est surédifié sur les prophètes et les envoyés. Et donc, par là, enfin, ça permet de justifier les prophètes, ce qui a été écrit dans le Tanakh, ça permet de justifier que on soit israélite. Voilà. Grâce à Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, en fait. Parce que Jésus-Christ est venu accomplir aussi certaines prophéties. Donc, Jésus-Christ n'est pas un uluberlu ou quelqu'un qui n'a rien à voir avec le Tanakh, non. On va continuer. En lequel, donc en Jésus, toute édification en maison et tente jointe ensemble croît envers un temple saint en maître. En lequel vous aussi, vous êtes édifiés en maison ensemble envers un lieu d'habitat établi de le Dieu en souffle. Donc là, on voit qu'il y a une unité d'esprit, un corps, comme on a vu juste avant, et que ce corps-là, il croit. Voilà. Il croit. C'est-à-dire quoi, il croit? C'est-à-dire que il augmente en nombre. Voilà. Et ça va dans le sens d'un Israël restauré. Un Israël qui est en train de se restaurer, la maison de David qui est en train de revenir. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, théoriquement, qui sont censés s'ajouter au corps, à la maison de David, si je puis dire. Enfin, à la maison de Dieu, si je puis dire. Au temple. Donc voilà pour ces quatre ou trois derniers versets, n'est-ce pas? Et après, je pourrais juste dire deux, trois mots sur le texte, enfin, disons, sur ce gros paragraphe, d'accord? À la base, j'avais pris juste le verset 11 à 17, à mon souvenir. Après, j'ai rajouté le verset 18 et finalement, j'ai rajouté toute la fin du chapitre. Donc, ça va verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Et ce gros bloc-là, eh bien, finalement, il est composé de deux choses seulement, si je puis dire. C'est que Paul arrive et dit, grosso modo, voilà, souvenez-vous, vous qui étiez de base des nations, bah, que vous étiez des nations, d'accord ? Et sur le fait qu'il dise ça, il rappelle quand même à côté, d'accord, en contrebalance, je ne sais pas si c'est-à-dire en contrebalance, en échange, il rappelle que, oui, avant vous étiez comme ça, mais maintenant, en vrai, vous êtes bien israélite. Voilà, donc, dans une partie de ce gros paragraphe, il va dire, rappelez-vous de votre ancien état, à savoir non-israélite. Et dans l'autre partie, il va vraiment développer le fait, développer la réalité que maintenant ils sont bien israélites. Voilà. Mais ça vient en second plan. Ça vient, c'est pas l'objectif premier, si je puis dire, vraisemblablement, de la lettre. C'est Paul, voilà, il a dit aux Éphésiens, voilà, de se souvenir de leur ancien état. Et là-dessus, il en a profité pour donner du poids à la réalité que maintenant ils sont bien israélites. Donc quand Paul a envoyé cette lettre aux Éphésiens, les Éphésiens étaient déjà israélites. Ils étaient déjà en Israël, enfin, quand je dis en Israël, c'est-à-dire d'Israël. Voilà. Donc c'est assez énorme, je trouve.